Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre publié en espagnol en 1971, « Les veines ouvertes de l'Amérique latine » est un essai historique, économique et politique de l'écrivain uruguayen Eduardo Galeano. Son propos central est de relier 5 siècles de conquête, de commerce et de dépendance afin de comprendre pourquoi un continent riche en terres, minerais et cultures commerciales a connu une pauvreté durable et des inégalités extrêmes. Galeano ne suit pas une chronologie classique, il organise son enquête autour des ressources qui ont alimenté les économies européennes puis nord-américaines, de l'or et de l'argent au sucre, au café, au caoutchouc et au pétrole. Il expose ainsi les liens entre extraction, travail contraint, concentration foncière, dette et ingérence politique. Le livre relève de la tradition de la théorie de la dépendance et assume une perspective de gauche, nourrie par le climat intellectuel latino-américain de son époque. Sa force tient autant à sa documentation qu'à son écriture polémique et imagée. Il faut toutefois le lire comme un grand texte engagé, situé historiquement, plutôt que comme une synthèse académique définitive. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, les matières premières comme fil conducteur de 5 siècles de dépossession. Galeano construit son essai autour d'une idée simple et structurante. Les richesses naturelles de l'Amérique latine ont souvent produit de la prospérité ailleurs sans créer un développement équivalent dans les régions qui les fournissaient. L'or et l'argent des premiers siècles coloniaux, puis le sucre, le cacao, le café, le caoutchouc, les minerais et les hydrocarbures ne sont pas traités comme de simples marchandises. Ils permettent de suivre des rapports de pouvoir concrets entre territoires producteurs, intermédiaires commerciaux, propriétaires locaux et centres industriels étrangers. Cette méthode donne au livre une unité continentale malgré la diversité des pays concernés. Une mine, une plantation ou un gisement deviennent les points de départ pour analyser les formes de travail, les infrastructures conçues pour exporter, ainsi que la fragilité des économies dépendantes de quelques produits. Le mécanisme décrit est celui de la valeur ajoutée. Les territoires latino-américains exportent fréquemment des produits bruts, tandis que les étapes les plus rentables de la transformation, du financement et de la commercialisation se concentrent hors du continent. Galeano insiste aussi sur le coût social et écologique de cette spécialisation. Sa démonstration est volontairement accusatrice. Mais elle aide à comprendre pourquoi l'abondance des ressources ne garantit ni souveraineté économique ni redistribution. Le titre désigne précisément ces flux de richesses qui quittent le continent comme un sang continuellement drainé. Deuxièmement, de la conquête coloniale à la dépendance économique moderne, le livre refuse de considérer les indépendances latino-américaines comme une rupture suffisante avec l'ordre colonial. Pour Galeano, la domination change de forme plus souvent qu'elle ne disparaît. La conquête ibérique a installé l'extraction minière, la grande propriété et des hiérarchies raciales et sociales durables. Après les indépendances, les anciennes colonies accèdent formellement à la souveraineté politique, mais restent insérées dans un système international où les capitaux, les marchés, les technologies et les voies commerciales sont largement contrôlées depuis l'extérieur. L'auteur retrace ainsi le déplacement progressif des influences dominantes. L'Espagne et le Portugal cèdent une partie de leur rôle à la puissance commerciale et financière britannique avant que les États-Unis ne deviennent le principal acteur continental au XXe siècle. Ce cadre permet de lire les interventions politiques, les prêts, les concessions accordées aux entreprises et les accords commerciaux comme des prolongements économiques de rapports impériaux. Galeano met l'accent sur les conséquences matérielles de cette continuité vulnérabilité aux cours mondiaux, endettement, profits rapatriés et dépendance technologique. Son interprétation privilégie fortement les facteurs externes, ce qui constitue aussi sa limite. Néanmoins, elle rappelle utilement que les relations internationales ne sont pas neutres et que la liberté juridique des États ne suffit pas à assurer leur autonomie économique. Troisièmement, latifundia, élite nationale et reproduction des inégalités rurales. L'analyse de Galeano ne désigne pas uniquement des puissances étrangères comme responsables de la dépossession. Il montre aussi comment des élites nationales ont participé à la conservation d'un ordre économique inégalitaire. La grande propriété foncière, souvent désignée par le terme latifundia, occupe ici une place essentielle. Héritée des structures coloniales, elle concentre la terre et le pouvoir entre les mains de groupes restreints. Tandis que les populations rurales disposent de peu de moyens pour produire de manière autonome ou accéder aux bénéfices de la croissance. Dans ce modèle, les cultures destinées à l'exportation peuvent l'emporter sur la production alimentaire locale, car elles répondent aux intérêts des propriétaires et aux demandes des marchés extérieurs. Galeano relie cette concentration de la propriété à la faiblesse des marchés intérieurs, à la pauvreté paysanne et à la dépendance politique des travailleurs ruraux. Son raisonnement est important car il évite une opposition trop abstraite entre nations riches et nations pauvres. Les bénéfices de l'insertion internationale ne sont pas répartis, également au sein même des pays latino-américains, les propriétaires terriens, les groupes commerciaux, certains dirigeants et les investisseurs peuvent former des alliances profitant de cette organisation. Le tableau reste marqué par les catégories de la pensée dépendantiste, mais il souligne une question durable. Aucun développement inclusif ne peut être évalué sans examiner qui contrôle la terre, le crédit, les institutions et les revenus issus des exportations. Quatrièmement, multinationales, dette et division internationale du travail. Dans la seconde partie des essais, Galeano examine des formes de domination moins directement coloniales et davantage liées au capitalisme industriel et financier. Les entreprises multinationales occupent une fonction centrale dans cette analyse, car elles contrôlent ou influencent l'extraction, la transformation, la distribution et parfois les décisions publiques qui affectent leurs activités. L'auteur décrit une division internationale du travail dans laquelle les pays périphériques fournissent matières premières, énergie et main-d'œuvre à faible coût, alors que les économies industrialisées concentrent l'innovation, les produits manufacturés et les gains les plus élevés. Cette configuration rend les économies exportatrices sensibles aux baisses de prix, tandis que les importations de machines et de biens élaborés entretiennent les déséquilibres. La dette apparaît comme un autre levier. L'emprunt peut financer des projets nécessaires, mais il peut aussi limiter les choix nationaux lorsque le remboursement exige une priorité constante accordée aux exportations et à la confiance des créanciers. Galeano associe ces mécanismes à des formes de pression diplomatique et politique, particulièrement dans la relation avec les États-Unis. Certaines de ces généralisations demandent à être confrontées aux recherches ultérieures et aux différences entre pays, mais son apport demeure net. Il rend visibles les rapports entre contrats commerciaux, investissements, pouvoir politique et hiérarchie mondiale, là où une lecture purement technique de l'économie pourrait les séparer artificiellement. En dernier lieu, un manifeste littéraire puissant dont le cadre idéologique appelle une lecture critique. Les veines ouvertes de l'Amérique latine se distinguent par une écriture qui associe enquête, statistiques, scènes historiques et images frappantes. Galeano ne cherche pas la distance impersonnelle de la monographie universitaire. Son indignation organise le récit et donne aux données économiques une portée humaine et morale. Cette énergie explique une part importante de la réception du livre. Il est devenu un texte emblématique pour de nombreux lecteurs, étudiants et militants désireux de comprendre les racines historiques des inégalités continentales. Elle explique aussi les réserves qu'il suscite. Le livre adopte un cadre marxiste et dépendantiste très affirmé, qui tend parfois à présenter les sociétés latino-américaines principalement comme les victimes cohérentes de forces extérieures. Les conflits internes, les responsabilités propres aux élites locales, les capacités d'action des populations et la diversité des trajectoires nationales peuvent alors recevoir une place insuffisante. Galeano lui-même a exprimé, des décennies plus tard, une prise de distance à l'égard de certains aspects de cet ouvrage de jeunesse, notamment de sa manière d'interpréter l'économie politique. Cette réserve ne rend pas le livre inutile. Elle invite au contraire à le situer. Sa lecture gagne à être accompagnée de travaux récents sur le colonialisme, le développement et les politiques nationales. Comme document intellectuel de son temps et comme appel à ne pas dissocier richesse mondiale et histoire de la violence, il conserve une puissance singulière. En conclusion, Les veines ouvertes de l'Amérique latine convient en priorité aux lecteurs intéressés par latino-américaine, le colonialisme, la géopolitique, les inégalités et l'économie politique. Il sera particulièrement utile aux étudiants qui cherchent une porte d'entrée forte dans les débats sur la dépendance, ainsi qu'aux lecteurs souhaitant relier les réalités contemporaines de la dette, des exportations et de la concentration des richesses à une longue durée historique. Son bénéfice intellectuel ne réside pas dans la fourniture de réponses définitives, mais dans sa capacité à poser des questions structurantes qui tirent profit des ressources. Où se crée la valeur? Quel groupe contrôle la terre? Et comment les relations internationales façonnent-elles les choix internes des pays? Par rapport à une histoire académique plus spécialisée, Galeano propose une vision panoramique, mémorable et littérairement travaillée. Il fait circuler le lecteur entre mines, plantations, ports, banques, entreprises et centres de pouvoir afin de rendre sensible la cohérence d'un système de dépendance. Cette ambition continentale et cette intensité de style le distinguent des synthèses plus neutres. En revanche, sa lecture doit rester critique. Publiée en 1971, l'essai reflète des débats idéologiques précis et simplifie parfois des causalités complexes. Le confronter à des recherches plus récentes permet de profiter pleinement de sa valeur, celle d'un classique engagé qui transforme des mécanismes économiques abstraits en problèmes historiques, politiques et humains. Si vous souhaitez soutenir Eduardo Galeano, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt!